Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Le 5 juin 2016, la Suisse a failli être le premier pays à créer un revenu de base universel et inconditionnel. La proposition soumise au vote des électeurs suisses devait être une alternative au système d'aide sociale. Chaque citoyen suisse, travaillant ou pas, avec ou sans domicile, banquier ou livreur de pizza, jeune ou âgé, aurait reçu un revenu versé par l'État qui lui aurait permis de mener une vie décente et de choisir librement son activité. Les électeurs ont finalement dit non à 76,9% à cette idée de revenu universel. Pendant ce temps-là, en France, l'idée d'un revenu de base, également inconditionnel, n'a pas beaucoup avancé non plus. Elle a été défendue par Benoît Hamon lors de la campagne présidentielle et elle est expérimentée depuis quelques mois dans la ville de Grande-Synthe, dans le département du Nord, dans sa version un peu rabotée. Revenu d'existence, revenu de liberté, allocation universelle, revenu universel de base, autant de noms et de propositions pas toutes neuves et assez diverses qui semblent refaire quand même surface à mesure que la valeur du travail est remise en question par des formes de travail qu'on dit ubérisées, souvent sous-payées et privées de tout sens social. Ou bien remises en cause par ce que l'on appelle les bullshit jobs, ces jobs à la con qui sont dévalorisés socialement, sans finalité, ni utilité clairement compréhensible. La toile de fond de ces réflexions, c'est aussi le multitasking et le télétravail qui conduisent plus que jamais au burn-out, à moins qu'il ne s'agisse de son cousin, le bore-out, très préoccupant aussi, c'est l'épuisement par l'ennui au travail. En avril 2016, en pleine contestation de la loi El Khomri sur le travail, les pieds sur terre se sont penchés sur cette question, la question de savoir s'il est bien raisonnable de continuer à travailler et si oui, pourquoi faire, pour qui, comment, dans quelles conditions et est-ce qu'on pourrait, par hasard, faire autrement. Une question qui nous semble d'actualité à l'heure où il nous faut tous reprendre le travail après de plus ou moins longues et agréables semaines d'oisiveté. Une enquête d'Olivier Minot, la fin du travail ou pas.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai fait une petite pancarte retrait du travail. Si on arrive à retirer la loi de travail, on n'aura pas gagné grand-chose. Juste, on aura un truc ahurissant en moins, mais on aura toujours la loi Macron, on aura toujours l'état d'urgence, la déchéance de nationalité qui n'est pas encore passée, mais ils vont nous faire passer des tonnes de trucs et puis ils nous feront passer la loi de travail en plein debout. En fait, c'est à nous de proposer des choses, de remettre en question le travail, de le partager, de travailler moins pour pouvoir faire d'autres choses, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir avancer socialement, culturellement, et voilà.
Eh bien moi, elle me plaît bien cette idée, remettre en question le travail. Depuis l'adolescence, j'ai un t-shirt où il est inscrit « Le travail est un crime contre l'humanité ». Ça m'arrive de le mettre encore, et souvent dans la rue, ça interpelle. « Il faut travailler !» me dit-on. J'ai beau répondre que le travail fait 4 morts par jour rien qu'en France, 5000 dans le monde, sans parler des souffrances, des burn-out, du fait de perdre sa vie à la gagner, la valeur travail, elle est bien installée dans notre imaginaire.
Je distribue des pubs, t'as un petit boulot comme les autres, quoi.
Ça fait longtemps que vous faites ça ?
5 ans en complément de retraite.
Combien vous touchez de retraite ?
700 euros. Là, je fais 20 heures par semaine, sur 3 jours, mais garanti, tous les mois, si on a pris 2 kilos, on les perd. Et c'est surtout l'activité physique, et pas rester à la maison, bouger, voir du monde, voilà. Se promener en ville, c'est sympa. J'ai des copains de mon âge, ils sont morts avant l'heure, quoi. Sur 6 copains d'enfants, je n'en ai plus qu'un qui est vivant. Il y en a un, c'était la télé tous les jours, l'autre la pêche tous les jours, le manque d'activité physique.
C'est ça qui les a tués ?
Oh, je crois, ouais. Et puis l'ennui. Un collègue me racontait, là, son voisin qui était à la campagne, qui était tout seul, bah, il s'est jeté dans un étang, là, il en avait ras-le-bol. Il a écrit un mot à ses enfants, comme quoi, il s'emmerdait, quoi. Alors que là, l'activité physique, elle est bien, puis on voit du monde, on marche, on... Et 7-8 km par jour, on les fait. Donc physiquement, c'est bien.
commencer mon travail sur la valeur travail, je suis allé prendre des nouvelles de Corinne.
Bonjour.
Salut.
Je te reconnaissais pas.
Corinne, c'est une des anciennes ouvrières de Lojabi, licenciée après 33 ans de travail à la chaîne payée au SMIC.
Alors ça fait 5 ans déjà. Ça fait 5 ans.
Ouais, c'est ça.
Je l'avais rencontrée dans le cadre d'une série de reportages pour Les Pieds sur Terre, au moment de leur lutte contre le plan social en 2010.
Et bien après ma cellule de reclassement, vu que je suis partie en cellule de reclassement après avoir perdu mon emploi, je voulais pas retourner à l'usine, c'est quelque chose que je ne voulais absolument pas, donc j'ai dit je vais faire quelque chose que j'aime. Donc j'aime le contact avec les enfants, donc j'ai passé mon CAP petite enfance que j'ai obtenu, et entre-temps, j'ai pas retrouvé d'emploi petite enfance parce que c'était que des remplacements d'arrêt maladie. Après, en lingerie à Fléria, ils cherchaient une personne.
Alors Fléria,
c'est à l'hôpital Fléria. Donc j'ai postulé, donc j'ai été retenue. Je touche 1200 et quelques le SMIG.
La même chose qu'à Lojabi.
Lojabi, oui, puis on avait le 13e mois, Lojabi. Je vais avoir 57 ans au mois d'octobre. Il me reste 5 ans à travailler. J'étais au privé, je passe en public. Et comme j'ai pas assez d'années, pour ma retraite, ça va être calculé différemment et je ne serai pas gagnante.
Alors si on fait un bilan, ces 33 ans de Lojabi au SMIC, cette fonction à la lingerie au SMIC, qu'est-ce que tu penses, toi, de ta vie de travailleuse ?
Travailleuse ? Bon, ça n'a pas été mirambolant. Hein.
C'est-à-dire ?
Je me suis rendu compte qu'à Lojabi, je ne m'y plaisais pas vraiment. Et puis on se rend compte qu'on était des robots, on était sur machine, hein. On n'était pas reconnus. C'est ce que finalement j'ai trouvé très très dur. Alors quand ça a fermé, pour moi c'était une libération. Parce que je pense que je ne serais pas partie de moi-même. Donc j'ai essayé de retrouver des emplois, hein. Mais c'est très difficile. Hein. On ne peut pas s'arrêter de travailler comme ça, se payer une formation. Oui, puis j'ai mes 3 enfants, hein. Fallait travailler quand même. Elle ne savait même pas recoudre un bouton, enfin presque pas. Je n'aurais pas appris la couture. J'avais peur qu'elle soit intéressée et qu'elle ne retrouve pas de travail, qu'elle se retrouve à l'usine. Ça, c'était ma grosse peur. Hein.
Pourquoi
je voulais
pas. Parce
que je pense que j'en ai souffert. J'ai jamais aimé ce que j'ai fait. Il y a autre chose à faire dans la vie. Il y a de très beaux métiers. Je vois ma fille qui est infirmière, c'est un beau métier. Psychologue, c'est un métier formidable aussi. Mais c'est vrai que j'ai raté quelque chose, ça c'est sûr. Hein. C'est fait, c'est fait. Moi, la plus belle chose, c'est mes enfants. Le travail, finalement, ça passe après.
Je suis né au début des années 80. Et depuis que je suis en âge de penser, j'attends chaque mois, avec impatience, les chiffres du chômage avec un grand espoir. Le retour du plein emploi. On m'a promis ça depuis l'école primaire. Mais un jour, j'ai vu un tag sur un mur. Dans une petite rue de mon quartier, quelqu'un avait écrit « Pas de plein emploi, mais une vie bien remplie ».
J'ai fait exactement 4 ans sans argent strictement. Le vrai secret, c'est apprendre à se contenter de ce qu'on a sous la main.
Alors pour apprendre à remplir ma vie sans emploi et donc sans argent, je suis allé voir Benjamin, grand promoteur de la vie sans un sou en poche.
Donc moi, à la base, j'étudiais aux Pays-Bas et j'ai terminé mes études en fin 2009 de communication. Et avec 2 amis, un Allemand et un Italien, on s'est mis en tête de réaliser un voyage écologique, un voyage où on consommerait le moins possible. Et c'est là où on est venu à l'idée de faire un voyage en fait sans utiliser d'argent. Un voyage qui nous a emmené des Pays-Bas jusqu'au Mexique en autostop, en bateau-stop. Ça a duré un an. On n'a pas utilisé d'argent. Enfin, il y a eu 70 euros d'utiliser pour refaire mon passeport parce que je m'étais fait voler mes affaires. Et au terme de ce voyage, quand on arrive au Mexique, on a eu envie de continuer. J'avais pas pu fermer mon compte bancaire quand j'étais au Mexique et en rentrant, c'est la première chose que j'ai fait. Donc il n'y avait plus de sous dessus, mais donc pas d'assurance, pas de compte bancaire, rien au début. Donc j'ai eu des gros problèmes de caries suite au voyage, donc j'ai trouvé une dentiste qui a accepté de me les soigner gratuitement et j'avais 22 caries, donc c'était nécessaire quand même pour moi. Donc, après je me suis occupé un peu de son jardin à elle, j'ai aidé un petit peu dans le cabinet, mais surtout après sa mère, qui avait 84 ans, avait besoin d'un coup de main pour tenir sa maison, lui tenir compagnie. Donc pendant un mois et demi, j'ai passé du temps avec sa mère et ça a été un peu l'échange, quoi.
Pour la nourriture, tu sais comment concrètement ?
Là, à la récup, j'ai découvert que c'était très facile dans d'autres pays de récupérer des invendus, de demander les invendus. En France, si on les demande, on me disait presque tout le temps non. Donc c'était plutôt faire les poubelles, aller à la sortie des marchés ou au Biocoop. Les Biocoop, eux, acceptaient de donner les invendus. Donc à ce niveau-là, oui, c'était pas trop compliqué, ouais. Mais il y a les vêtements, par exemple. C'est vrai que c'est un peu un point d'honneur pour moi de pas acheter de vêtements et qu'on m'achète pas de vêtements.
Alors comment tu fais là? Les chaussures que t'as viennent d'où?
Ah ben là, elles ont été récupérées chez un ami qui les avait achetées il y a un an et qui les avait jamais mises parce qu'il les aime pas. Le pantalon, c'était dans un conteneur, une grosse benne à la sortie d'un village. Bon, la veste, c'est à mon cousin. Le pull, pareil, c'est récupéré. C'est un pull de l'armée. Voilà, chaussettes, caleçons, je fais pareil, je les récupère.
Le logement?
Alors, logement, il y a eu plusieurs manières. À la campagne, on faisait en woofing, donc on travaillait dans des fermes bio en échange du logement, de la nourriture. Et en ville, ben, plusieurs fois, on a trouvé des personnes en fait qui avaient besoin d'un coup de main. Donc, par exemple, à Toulouse, on est resté un petit temps parce qu'il y avait une femme avec son enfant et elle cherchait quelqu'un pour l'aider à s'occuper de son enfant qui avait 5 ans et qui était assez turbulent. Donc, elle nous a proposé une chambre en échange de ça. Donc, on est resté 5 mois là-bas. Donc voilà, pour le logement, c'était aussi toujours comme ça, un peu un échange de services. À l'époque, c'était vraiment l'idée d'être indépendant complètement du système financier et surtout de ne pas avoir ce petit matelas qui, au final, nous empêche réellement de faire confiance, de se libérer et de découvrir qu'on a les capacités pour s'en sortir sans un système financier, sans une banque, sans un RSA, sans tout ça, quoi. L'idée, c'était de ne pas avoir de sécurité sociale et aussi de faire confiance à ce niveau-là. Forcément, ça a eu une durée limitée, surtout parce que j'étais donc avec celle qui est devenue ma femme, Yasmine. Et surtout, à un moment donné, elle a fait une fausse couche. Et c'est là où elle a eu envie de voir un médecin. Et vu qu'on n'était pas assuré, ça a posé problème. Et donc, à partir de là, elle a voulu être assurée. Et vu qu'elle est mexicaine, elle ne pouvait pas être assurée comme ça, il fallait que ça passe par moi. Donc, on recevait le RSA pour avoir la sécurité sociale. Donc, elle avait ouvert un compte bancaire qui était à son nom et je lui avais dit, tu le gardes, mais moi, je ne veux pas avoir. Et mon idée, c'était aussi qu'elle ne le touche pas, cet argent, pour que ce soit son petit matelas de sécurité parce qu'on en avait besoin. Et moi, je continuais à me débrouiller pour le logement, la nourriture et tout ça. Voilà. Et au bout d'un an, notre fille est née. Et là, je me suis dit, il est temps de changer et de revenir à autre chose. C'est là où j'ai commencé à rentrer dans le système de nouveau. Avec l'expérience de vivre sans argent pendant plusieurs mois, je me suis retrouvé au moment à plus avoir de désir. Ça m'était complètement égal de passer devant une boulangerie et de voir un croissant. Par contre, je le sais par exemple pour ma femme, si on se baladait dans la rue, elle avait envie d'un croissant. Pour elle, ça a toujours été un peu le dilemme. Et elle n'a jamais réussi à aller au-delà de ça, elle avait envie d'un croissant, il fallait qu'elle mange son croissant, sinon elle n'était pas contente. Et quand ma femme part, elle est partie au Mexique avec notre bébé pour que ses parents puissent la connaître, je me suis retrouvé donc célibataire de nouveau pendant un mois. Et pour moi, c'était un kiff de justement dépenser le moins possible, d'aller chercher mes plantes sauvages. Voilà, ça me rend vraiment heureux de sentir que j'ai un impact minimum. Pour ma femme, son bonheur, c'est aussi ses petits plaisirs du quotidien, que je comprends, que je partage avec elle d'ailleurs. Mais je peux très bien m'en passer parce que moi, c'est autre chose qui me remplit. J'ai jamais été aussi heureux que quand j'ai été dans l'austérité.
Après ma rencontre avec Benjamin, j'étais prêt à vivre sans argent. Il m'avait convaincu. Bon, en fait, j'ai tenu environ 10 minutes, le temps d'avoir une envie pressante, insurmontable. Boire un café en terrasse.
Salut Vincent.
Yo, comment va?
Ça va et toi?
Bien.
Je peux te prendre un café et un verre d'eau? Bien sûr.
Ça fait partie de mes activités non rémunérées préférées. Siroter un petit noir au coin d'une rue, seul ou avec des amis. Observer l'animation de la ville. Écouter les conversations des autres tables et échanger des idées avec des inconnus.
Et toi, tu fais quoi en ce moment?
Moi, j'essaye de travailler sur le fait de ne pas travailler.
Ok, t'as entendu parler de tout ce qui est revenu garanti, revenu d'existence, allocation universelle, revenu de base.
C'est quoi?
C'est l'idée de verser en fait de la naissance à la mort un revenu aux riches comme aux pauvres. Et ensuite, selon la vie de l'individu et le moment où il en est, il décide de prendre un emploi pour compléter ce revenu ou non.
Alors qu'on pourrait tous avoir une sorte de RSA, c'est ça?
Alors l'idée, c'est pas forcément d'avoir un RSA. RSA, c'est un montant assez faible. L'idée, ce serait plutôt d'avoir un socle, en tout cas, qui assure la dignité à chacun. Réfléchir en fait les projets en fonction du sens qu'on veut donner à sa vie, que ce soit se reformer ou aller faire un projet personnel ou autre chose, quoi.
Mais donc, du coup, c'est possible cette idée. Par exemple, si on décide de donner 1000-1500 euros à tout le monde, c'est viable.
Je pense qu'on ne peut que constater que l'argent est là. L'argent, il circule, on voit qu'il y a énormément d'argent. On est à une époque extrêmement riche, on est dans l'abondance. Et après, le financement, entre toutes les propositions de réforme fiscale qu'on peut avoir, les capacités d'autofinancement, parce que sans toucher à toutes les aides, on peut déjà fusionner certaines qui existent. Le RSA, la prime à l'emploi, les allocations familiales. une soixantaine d'aides différentes à la CAF. On pourrait simplifier peut-être le marasme que c'est en gardant bien sûr toutes les aides du handicap, toutes les aides qui sont importantes.
Tu veux supprimer les allocations familiales, mais les gens ils vont pas être d'accord avec ça.
Alors ça dépend par quoi c'est remplacé en fait. L'idée c'est vraiment que...
Le revenu il est aussi pour les enfants.
Bien sûr, les enfants touchent un revenu inconditionnel qui est versé peut-être au tuteur légal de l'enfant. Voilà. Mais bien sûr, donc du coup à partir de là, on peut se dire que les allocations familiales, par exemple, sont réintégrées dans ce système. Donc il y a des aides qu'on peut fusionner. On n'est pas obligé de les fusionner toutes. Hein. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'aides qu'il faut garder. Au contraire, tout ce qui est protection sociale, éducation, tout ça, on garde.
Alors les gens, ils vont faire quoi s'ils sont plus obligés de travailler? Ils vont passer leur temps à faire comme moi, à glander, à réfléchir au café.
Aujourd'hui, on est dans une société où la centralité de l'emploi est telle que tout ce qu'on fait de reconnu, c'est dans l'emploi, dans l'emploi, dans l'emploi. Est-ce qu'il n'y a pas du travail en dehors de l'emploi? Est-ce qu'il n'y a pas des retraités qui travaillent, qui ont une activité? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont bénévoles, qui font des choses? Quelqu'un qui n'a envie de rien faire du tout, ça porte un nom, c'est la dépression. C'est un cadre médical. À ce moment-là, si on est dans une société où tout le monde est dépressif, c'est peut-être d'autres questions qu'il faut se poser. Alors, peut-être qu'il y a des emplois qui seront désertés. Peut-être qu'on va devoir revaloriser les salaires de certains emplois. Peut-être qu'on va devoir aménager les temps de travail de certains emplois. Voilà, peut-être qu'on va devoir donner plus de sens à certains emplois ou en faire disparaître. Mais sans doute, c'est le but. Voilà.
Un revenu de base, inconditionnel, 1000 euros par mois, l'équivalent du seuil de pauvreté. J'ai trouvé cette idée géniale. J'ai eu envie d'en parler à tout le monde.
Je suis un peu contre, parce que c'est trop facile, plus personne ne va travailler, quoi, je veux dire. C'est la porte ouverte à la fainéantise et à la paresse. Alors, c'est mon avis.
Bon, l'idée n'a pas convaincu mon retraité qui distribue des pubs. Mais je suis aussi retourné voir Corinne pour lui demander ce qu'elle aurait fait si elle n'avait pas été obligée de travailler.
Peut-être du bénévolat, partir dans des pays pauvres, aller aider les enfants. Je pense que je serais peut-être partie de 3 mois comme ça. Ben, ça serait aussi peut-être pour rendre visite à des personnes âgées et j'aurais peut-être pris beaucoup de temps aussi pour moi parce que j'adore marcher dans la nature. La lecture aussi, parce qu'on a peu de temps quand on est au travail, il y a plein de choses qu'on voudrait faire mais qu'on ne peut pas faire. Ça serait bien, mais bon, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien en France.
La motivation des gens soit beaucoup moins forte dans le travail, quoi. Il y a des gens dans le travail qui se battent toute leur vie. S'il y a un salaire fixe pour tout le monde, les gens peuvent se baisser un peu les bras, je pense.
Et par exemple, vous, donc vous êtes le mari de Corinne, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
J'étais boucher et j'ai passé animateur de vente il y a une quinzaine d'années dans une grande surface. J'ai travaillé toute ma vie comme un malade, mais c'était ma passion. Je ne me suis jamais arrêté, j'ai jamais voulu m'arrêter. Là, c'est la médecine du travail qui m'a arrêté en avril 2015. Parce que je ne pouvais plus lever le bras. Et puis j'avais un tendon d'arraché, un autre abîmé, donc je viens de me faire opérer. Mon généraliste m'a dit que je ne pourrais jamais retravailler. Mon chirurgien m'a dit que je ne pourrais jamais retravailler. J'étais très actif dans mon travail, et puis ça finalement usait toute la machine. Quoi. Voilà, quoi.
Et vous gagniez combien à peu près par mois?
Les dernières années, 2400 par mois en moyenne.
S'il y avait eu cette idée de revenu universel?
Ah, je pense que je me serais moins forcé si c'était... Depuis un an et demi, j'avais demandé à réduire mon temps de travail. Parce que je voyais que la machine n'allait pas aller jusqu'au bout. Ils nous proposaient de faire 32 heures ou 28 heures. Donc j'avais pris le contrat de 32 heures par semaine. Ce qui n'a pas empêché que j'étais obligé de m'arrêter. Et là, c'était la bêtise, puisque mon salaire est basé sur les 32 heures.
Ah, votre salaire d'arrêt maladie, du coup?
Est basé sur les 32 heures. Mais je ne savais pas que je n'allais pas pouvoir tenir jusqu'au bout. Quoi.
France Culture, les pieds sur terre.
Comme me l'a expliqué Vincent, l'idée d'un revenu de base est viable. Pour l'économiste Baptiste Milondo, avec qui je bois un café, le financement est un faux problème. Pour lui, en 2010, le revenu disponible après versement des prestations sociales était de 1276 euros par personne. En fouillant un peu, je découvre aussi que le revenu de base est défendu tant à la gauche de la gauche que dans une certaine droite libérale, qui voudrait, elle, en profiter pour supprimer toutes les aides, y compris retraite et sécu.
Leur objectif, c'est que personne n'y gagne, personne n'y perd.
En tout cas, l'idée du revenu de base est expérimentée aux Pays-Bas, bientôt en Norvège, et en Suisse, il y aura un référendum le 6 juin prochain. Je me rends à Genève pour suivre la campagne électorale qui bat son plein.
Bonjour madame, est-ce que vous savez qu'on va voter le 5 juin sur le revenu de base?
Ah ok, je m'en fais plus.
Est-ce que vous êtes au courant de ce que c'est le revenu de base?
Le salaire minimum en fait.
Alors non.
Non,
justement pas.
Ah, parce que moi, je pense que c'est ça.
D'accord. Le salaire minimum, c'est quelque chose qui est donné en contrepartie d'un travail.
D'accord.
Le revenu de base, c'est donné à tout le monde, sans condition.
D'accord.
C'est un revenu qui doit permettre de se loger, de se nourrir, de se vêtir, avant de se sentir obligé d'aller travailler.
Alors moi, je suis tout à fait pour ça. Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'après, il y ait moins de gens sur le marché parce qu'ils se disent, pourquoi pas, je reste à la maison ou je ne travaille plus et l'économie va s'en pâtir, en fait.
Mais
non,
qui va vouloir rester assis sur son derrière toute la vie?
Non, je vous comprends. Moi, j'ai mon fils qui est au chômage. Ça fait 3 mois, il en a marre, il ne peut plus. Mais c'est vrai. Ouais. Voilà.
Ça va être un vrai changement de société.
Voilà, exactement. Ouais, ouais, ouais. Mais non, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas.
Je suis choqué.
Choqué.
Ouais.
La société.
Tu veux de l'argent gratuitement, oui, aux gens. Les salaires vont monter, les prix vont monter, la différence va disparaître.
Non, 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 pas du tout.
Bien sûr.
Actuellement, il n'y a plus assez d'emplois rémunérés pour tout le monde. Mm-hmm. Ça, vous êtes d'accord
quand même. Plus assez d'emplois rémunérés pour des gens pas qualifiés qui n'ont pas envie de se lever le matin pour aller travailler. Ouais. Ça, je suis d'accord.
Vous mettez un quelque chose de très moral là-dessus.
Se battre.
Ouais.
Se lever le matin avec l'envie d'y aller, avec la niaque.
Ouais.
Dans la nature, les animaux, pour aller manger, doivent se battre pour manger. Les hommes sont des animaux comme les autres.
Ouais.
Okay.
Votre système, son financement ne tient que sur les gens qui travaillent.
Votre système à vous,
sur les entreprises,
bah, on a vu ce qu'il donnait, il ne fonctionne pas,
oh, bah,
on arrive au bout. Mais non, regardez, ouvrez un peu les yeux.
Ah bah écoutez, j'ouvre les yeux, le taux de chômage le plus faible d'Europe est en Suisse.
Vous êtes quelqu'un d'intelligent.
C'est gentil, merci.
Vous êtes d'une arrogance époustouflante.
Ah bon,
vous savez tout, tout le monde va bien, vous vous êtes jamais mêlé à ceux qui ne vont pas bien.
Non, vous avez raison. Vous avez raison.
Et qui rame.
Je vais vous dire une chose, madame. Les chefs d'entreprise.
Et des indépendants, je suis indépendant.
Les chefs d'entreprise rament aussi.
Oui,
ils se battent tous les jours. Et dans mon concept, c'est pas l'État et le RBI qui me fera moins ramer.
Je vous suggère de vivre une année.
Oui.
Une année avec 3000 francs par mois.
Bah, avec 2005, vous vivrez mieux? On a la chance dans ce pays d'avoir des assurances sociales qui fonctionnent.
Oui, parce que vous êtes né du bon côté.
Non, non.
Oui,
on a un système qui fonctionne. J'ai des amis qui ont été au chômage, j'ai des amis qui ont eu des difficultés. Il y a un filet social qui fonctionne.
À 55 ans, vous trouvez un boulot si vous êtes au chômage.
Mais madame, le RBI ne résoudra pas votre problème.
Ah si.
Vous ne trouverez pas plus de travail avec le RBI que sans RBI.
Mais
bien sûr que oui.
Avec 2500 francs, vous avez un minimum assuré. Le reste,
et l'aide sociale ne vous donne pas 2500 francs à Schnaff ?
Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas.
Je fume un gros joint, là. Ça va calmer tous les esprits.
Yvan Slatkin, président de la Fédération des entreprises romandes, qui est le syndicat des patrons en Suisse romande. On peut dire que c'est l'équivalent du MEDEF.
Vous gagnez combien par mois?
Écoutez, je gagne plus de 10 000 francs suisses par mois.
Ça équivaut à plus de 8 000 euros selon le taux de change.
Plus de 8000 euros, ouais, tout à fait.
Donc on imagine que ça passe.
Oui.
Du coup, vous avez un revenu de 2500 qui est garanti. Qu'est-ce que ça va changer fondamentalement dans votre vie?
Ah bah ça changera strictement rien dans ma vie, puisque je gagnerai toujours la même chose, simplement que mon entreprise me payera moins et puis je toucherai 2500 francs la différence de la part de l'État, mais c'est pas du tout dans ma conception de ce monde. Je ne suis pas un assisté de l'État, je n'ai pas besoin de l'État, je suis prêt à payer des impôts pour les infrastructures, je suis prêt à payer des impôts pour l'aide sociale, mais je ne suis pas prêt à payer des impôts pour me recevoir moi ensuite une rente à vie. C'est pas ma conception de ce monde et dans ce sens-là, je me pose à une étatisation partielle de l'économie. Et ça me fait penser à des idées qui ont disparu d'un système qui a fait faillite, c'est le système communiste. Jusqu'à nouvel avis, le système capitaliste fonctionne mieux que le système communiste. Et on a un peu l'impression d'un retour en arrière vers un système qui était celui prôné par Lénine et Staline.
Bah, c'est vrai qu'on est un pays d'assistés, c'est que les banques, par exemple, pour les subprimes, sous la crise des subprimes, c'est l'État qui a reversé l'argent pour récupérer les failles du système bancaire.
Lui, c'est Camille.
Sinon, ça se passerait pas comme ça.
Et Camille, il n'attend pas que la Suisse nous montre l'exemple en juin prochain.
On peut dire que le monde du patronat est un monde d'assistés.
C'est avec lui que je bois le dernier café de cette émission, puisqu'en attendant la mise en place d'un revenu de base inconditionnel, il me propose une solution.
Avec un groupe de gens, on a formé une mutuelle autonome. C'est-à-dire, on est 25 en ce moment, personne à se voir chaque mois chaque personne file 10% de ce qu'elle a gagné dans le mois. On fait une grosse caisse qu'on partage en deux. Il y a une caisse qui est mise de côté, qui va servir pendant tout le mois, et il y a une moitié qui est tout de suite redistribuée, selon ce qu'on a comme revenu. Alors ramenant zéro, tout de suite je touche 100 euros. N'importe quelle personne qui n'a rien gagné dans le mois a tout de suite 100 euros direct. Et ce qui reste est divisé par le nombre de personnes qui ont moins de 400 euros. Selon le mois, ça peut aller de 20 euros à 150, à 200. Donc ça, c'est une première somme. Et la deuxième possibilité, c'est la deuxième partie de la caisse, notre caisse bison. Donc la caisse bison est là disponible chez des personnes référentes pendant un mois. Et n'importe quelle personne de la mutuelle, quand elle a besoin d'argent, contacte les personnes référentes et va chercher la somme dont elle a besoin. On essaie de voir qu'il reste de l'argent dans la caisse pour faire que si d'autres personnes en ont vraiment besoin, là, ne trouvent plus rien, quoi. Effectivement, il y a des personnes, je pense, qui, depuis le début de la mutuelle, n'ont fait que donner 10% de leurs revenus sans toucher concrètement de l'argent derrière. Mais je crois que les personnes, par exemple, qui sont salariées, ça leur fait aussi ça, effectivement. Ça leur fait qu'à un moment, si elles sont dans une condition de remettre en question leur choix d'avoir cette activité salariée, eh ben, je pense qu'elles savent qu'elles peuvent compter sur la mutuelle aussi et que ça tourne quand même. Pendant plusieurs mois, je n'avais plus de revenus. Et ça a été la mutuelle, donc cette alliance collective qui a permis de me donner de l'argent mensuellement, ce qui m'a permis de ne pas accepter tout de suite n'importe quel travail mal payé que je pouvais avoir directement comme ça.
Be lurking, you make a like, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in a righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, all my sleep, a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you.
C'était la fin du travail en reportage d'Olivier Minot réalisé par Eric L'Ancien avec un coup de main de François Connac. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 26 avril 2016. Merci à Baptiste Milono, à Vincent Bonia, Corinne, Claire Midi, à Anne-Béatrice Dupart, à Benjamin Lesage, à Nicolas Tripet, à Yvan Slatkin et à Léon, c'est Camille Richir qui fait l'attaché de production des Pieds sur Terre cette semaine.
Beg you something, please. Baby, don't you leave. Don't leave me stuck here in the streets. If I get another chance to, I will never, no, never neglect you. I mean, who am I to hold your best against you? I just hope that it